La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père en Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Frère. Bienvenue à vous tous ce matin dans ce lieu de culte, bienvenue dans cette maison de prière. Vous êtes ici chez vous, avec votre Dieu, avec celui auquel vous croyez, celui que vous cherchez, celui que nous annonçons, et tout cela fait la multiplicité de l'Église. Bienvenue à vous tous. Nous sommes ce matin ensemble pour vivre ce temps de culte avec David Cassan qui accompagne ce temps de prière, de chant et de méditation. Je vous invite à la prière pour commencer ce temps. Seigneur, nous te remettons ce temps de rencontre. Ce temps aussi où nous pouvons entrer en nous-mêmes pour aller te rejoindre là où tu nous apportes ton évangile, ta bonne nouvelle. Convertis nos cœurs et permets que nous soyons sans cesse à l'écoute de ta parole. Rassemble-nous dans la communion fraternelle. Que nous soyons ici au temple ou chez soi, derrière un écran, à essayer de suivre un culte en toute communion, malgré la distance. Nous te prions, Seigneur, pour être ensemble, sous ton regard. Amen. Et nous prenons les spontanés dans le psautier français. Je vous invite à vous lever. Et nous louons Dieu tous ensemble avec le psaume 19 du chef de chœur, psaume de David. Le ciel raconte la gloire de Dieu, la voûte céleste dit l'œuvre de ses mains. Le jour l'annonce au jour, la nuit l'explique à la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur voix. Leurs mesures apparaissent sur toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde. C'est là qu'il a placé une tente pour le soleil. Celui-ci, tel un marié sortant de sa chambre, tout content, se met en route, tel un vaillant guerrier. Il s'élance des extrémités du ciel et achève sa course à l'autre extrémité. Rien n'est à l'abri de sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite, elle restaure la vie. Le témoignage du Seigneur est sûr, il rend sage le naïf. Les directives du Seigneur sont droites, elles réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il fait briller les yeux. La crainte du Seigneur est pure, elle subsiste à jamais. Les règles du Seigneur sont vérité, elles sont toutes justes. Elles sont plus précieuses que l'or, que beaucoup d'or fin, plus douces que le miel, que le miel qui coule des rayons. Moi-même, ton serviteur, je suis averti par elles, et pour qui les observe, l'avantage est grand. Qui peut connaître ces erreurs involontaires? Tiens-moi pour innocent de ce qui m'est caché. Préserve-moi aussi des gens arrogants, qu'ils ne dominent pas sur moi. Alors je serai intègre, innocent de toute transgression grave. Que les paroles de ma bouche et le murmure de mon cœur soient agréés de toi, Seigneur, mon rocher et mon rédempteur. Et je vous invite à chanter votre louange avec le psaume 101, et nous prendrons les 5 strophes ce matin pour chanter notre louange. Psaume 101 dans les psautiers. vous invite à vous asseoir. Voici la volonté du Seigneur annoncée par le Christ. Il nous dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes paroles, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les paroles de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici ce que je vous propose. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, dit le Seigneur. Voici ce que Job, en relisant sa vie, comprend de son humilité et ce qu'il dit à Dieu. Je sais que tu peux tout et qu'aucune pensée ne t'échappe. Ainsi, j'ai parlé sans comprendre de choses étonnantes qui me dépassent et que je ne connais pas. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je renonce, je me repens sur la poussière et sur la cendre. Mais le Seigneur nous redit sa grâce et dit à chacun de nous, et je vous invite à vous lever pour recevoir cette parole de grâce. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Nous confessons ensemble notre foi. Nous croyons que tu fais toutes choses nouvelles. Dieu des choses nouvelles, pour le monde et pour nous, toujours et en tout temps. Toi, le Dieu de la résurrection, de la vie nouvelle et de l'homme relevé. Nous croyons que personne n'est enfermé dans la fatalité du malheur, mais que tu nous offres dans la foi l'horizon d'un bonheur. Nous croyons, grâce à Jésus, que l'homme est ton espérance et que ton amour pour lui est le même amour que tu as eu pour nous, Nous croyons qu'il est possible de nous laisser convertir à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain, et qu'ainsi le règne de Dieu peut advenir chaque jour par nos actes et nos pensées. Nous croyons qu'une fraternité de foi existe avec tous ceux qui se soucient de ce monde et de ceux qui le peuplent, et qu'ensemble, quelle que soit notre tradition de foi, nous pouvons rendre manifestes toutes les choses nouvelles que tu crées pour nous. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Je vous invite à vous asseoir. Dans l'évangile de Matthieu ce matin, nous lirons à partir du verset 14. Des disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Jésus leur répondit « Les amis de l'époux peuvent-ils mener deuil tant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. » Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieux vêtement, car le morceau tire sur le vêtement et il en résulte une déchirure pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent. Le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et l'ensemble se conserve. Je vous invite à chanter le cantique 184, les strophes 1, 2, 3 et 4, dans le Louange et prière. Et nous nous levons. Nous prions ensemble. Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous sachions où aller quand nos chemins se perdent, que faire quand nos avenirs sont incertains, que pouvoir quand nous sommes au bout de nos forces. Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous puissions bâtir ton royaume en annonçant, en guérissant et en aimant. Seigneur, de notre espérance et de notre foi, nous te cherchons dans la méditation de cette écriture ancienne, à l'écoute de la parole source de nouveauté et d'illumination. Amen. On met le vin nouveau dans les outres neuves et l'ensemble se conserve. L'arrivée du règne de Dieu fait éclater les vieilles outres, les pratiques anciennes, les méthodes du passé. Pour conserver l'ensemble, étrangement, il faut changer. Pour créer du durable, il faut accepter de repartir à neuf. Cette idée n'est pas facile à penser. Spontanément, on aurait tendance à penser que pour faire du durable, il faut rester dans la continuité et ne pas changer grand-chose. Pourtant, cet échange entre Jésus et les disciples de Jean nous indique une autre voie possible et une réalité que nous avons parfois du mal à entrevoir dans nos propres vies. Comment débute cette controverse ? Les disciples de Jean viennent dire comment ils ont toujours fait et s'étonnent de voir qu'avec Jésus, les choses ont changé. On ne fait plus comme avant. Les disciples de Jean, comme les pharisiens, pratiquent le jeûne. Ils sont dans un ascétisme qu'ils croient juste et sans doute leur fidélité à Dieu s'exprime-t-elle de cette façon. Jean est un prophète qui fonde tout son discours sur la pureté du cœur. Il juge sa génération comme étant pervertie par l'envie de chacun de privilégier ses intérêts propres plutôt que de se convertir à la parole de Dieu. Et en réaction à ce constat, il prône un ascétisme visant à ceindre les reins de ses contemporains comme il a ceint lui-même ses reins. Il voudrait un monde de prophètes, en quelque sorte, comme lui, dans lequel tous auraient fait le choix de vivre de ce que Dieu lui donne au jour le jour. Pour lui, c'était des sauterelles et du miel. Il voudrait que ses frères et sœurs dans la foi, les enfants d'Israël, soient toutes et tous des ascètes. Mais les sauterelles et le miel ne sont pas du goût de tout le monde, et le monde autour de lui change. En fait, Jean et Jésus recherchent la même conversion des cœurs. Mais quand Jean prêche la préparation à recevoir le règne de Dieu par cet ascétisme, Jésus va plus loin et affirme que le règne de Dieu a commencé, qu'il est là, et que les noces éternelles ont commencé maintenant, puisque le marié est là. Quand le jeûne de Jean et des pharisiens avait le rôle de préparer à recevoir l'accomplissement du royaume de Dieu dans le cœur de chacun, la gloutonnerie de Jésus manifeste la rupture que provoque la fête. La rupture d'une noce, des noces éternelles, de l'alliance qui enfin s'accomplit, qui fait une rupture dans le temps, dans l'habitude, dans tout ce qui était jusque-là. car Jésus est bien vu comme un glouton dans les évangiles. Et il semble le savoir, car au chapitre 11 de l'évangile de Matthieu, Jésus déclare en parlant de lui-même et de Jean, « Jean est venu, il mangeait, il ne mangeait ni ne buvait. Et l'on a dit, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Et l'on dit, c'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs des taxes et des pêcheurs. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. » Jésus n'annonce pas seulement la venue du règne de Dieu dans ce monde, il l'accomplit. C'est un changement de paradigme très important et sans doute difficile à comprendre, pour ses contemporains d'abord, et peut-être pour nous aussi aujourd'hui. Ce changement apparaît comme une rupture avec la foi d'Israël marquée par l'attente du Messie. Cette attente messianique est une véritable théologie, bien sûr, une pensée qui a sa cohérence interne et dans laquelle le prophétisme et l'ascétisme remplissent tout à fait leur fonction de marqueur d'un règne qui n'est pas encore là et que le peuple de Dieu espère sans cesse. Le comportement de Jésus, lui, a une autre cohérence interne, celle du royaume déjà là. Ce qui veut dire que les promesses messianiques sont accomplies. Toujours dans le chapitre 11 de l'évangile de Matthieu, à ceux qui viennent rapporter la question de Jean à Jésus, est-ce toi qui es celui qui vient ou devons-nous en attendre un autre? Jésus répond, les aveugles retrouvent la vue, les infirmes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts se réveillent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Quand Jean conjugue au futur l'accomplissement du salut de Dieu, Jésus, lui, conjugue au présent. On pourrait penser que le discours religieux est un discours éminemment conservateur et que dans ce contexte, seule la tradition y a droit de cité. Mais ce qu'annonce Jésus avec les images du vieux vêtement reprisé et des outres de vin, c'est une reprise innovante du contenu de la foi. Ce que le philosophe et théologien danois du XIXe siècle Kierkegaard appelle, selon ses traducteurs, la réduplication. Pour conserver le cœur du message de l'Évangile, il ne s'agit pas de faire comme on a toujours fait. C'est même l'inverse qu'il convient de faire. Il faut changer, convertir ce que l'on a reçu comme témoignage de foi en l'accomplissant dans le monde tel qu'il est au moment où nous le recevons et au moment où nous allons le retransmettre. Ce qui se transmet de l'histoire du salut d'âge en âge et de génération en génération, c'est précisément ce qui échappe, ce qui est plus grand que nous, ce qui est éternel. Et pour transmettre fidèlement cette part d'éternité qui nous sauve, il faut la redupliquer, comme dit Kierkegaard, c'est-à-dire se l'approprier dans les codes du monde actuel. Il faut contemporanéiser l'Évangile, le rendre contemporain à nous. Il faut donc que l'Évangile reçu, cette bonne nouvelle du salut de Dieu pour l'homme, devienne l'Évangile en acte, dans nos vies, le code vivant de nos existences. Sans cesse, les religions sont travaillées par cette question, et elle s'épuise en vaines querelles entre les anciens et les modernes, comme si la question était de savoir si l'on devait tout faire comme avant pour être fidèle à une tradition, ou si l'on devait tout rejeter parce que la tradition n'est plus à la mode et que le monde a changé. Mais une tradition qui traverse les âges et se transmet fidèlement ne se fait que si elle est réinterprétée sans cesse par ses contemporains. Si elle est érigée en code de l'existence ici et maintenant. C'est pourquoi être fidèle revient à ne pas faire ce qu'ont fait les pères, mais réinventer la tradition pour le présent de nos vies. C'est un effort considérable. On met le vin nouveau dans les outres neuves et l'ensemble se conserve. Le problème que pose Jésus, c'est celui du temps qui sans cesse avance et ne conserve que ce qui se transforme avec lui. Le vin nouveau qu'il est venu annoncer à la suite de Jean, mais différemment de Jean, c'est son évangile, celui selon lequel l'attente ne peut plus être le paradigme de la foi, parce que l'histoire a donné tort à la position d'attente et que Jésus comprend que cette théologie de l'attente l'empêcherait de voir le salut de Dieu déjà accompli autour de lui. Jésus a reçu en lui cette foi annoncée par les prophètes, cette foi de l'attente. Et il est devenu cet homme nouveau dont parlera Paul après lui. Cette nouveauté nécessitait de nouveaux comportements pour pouvoir rester fidèle au Dieu de ses pères. Hier comme aujourd'hui, cette réforme constante et nécessaire des codes de la foi est difficile à envisager et même à vivre. Et pourtant, combien sommes-nous à avoir changé de confession chrétienne, par exemple, justement pour rester fidèles au Christ, pour que le cœur de l'évangile que nous avions reçu retrouve sa cohérence interne. Les réformateurs eux-mêmes n'ont-ils pas changé la forme même du rite chrétien et des églises pour rester fidèles à la foi qui les animait et qu'ils avaient reçue de leur Père? Pour conserver, il ne faut pas être conservateur, mais novateur. Non pas pour être moderne, mais parce que le monde qui est le nôtre n'est plus le monde de nos ancêtres et que l'Évangile est une matière vivante, pas une archive conservée pieusement dans du papier de soie. L'Évangile est comme le vin nouveau, le vin de la fête, le vin des noces, les noces du croyant avec son Dieu. Et si l'on tente de le contenir dans des schémas anciens qui ne correspondent plus au monde contemporain, les schémas anciens éclatent et le vin de l'Évangile est perdu. Nombreux sont les chrétiens, de toute confession chrétienne confondue, qui ne comprennent pas comment leurs églises peuvent rester dans une telle inertie parfois, une inertie de normes anciennes qui ne sont plus comprises aujourd'hui. Dans notre monde contemporain, les choses ont changé. Je citerai quelques exemples, comme par exemple le célibat demandé au clergé, l'impossibilité des femmes d'accéder au même ministère que les hommes dans toutes les confessions chrétiennes, les difficultés d'accueil mutuel au repas du Seigneur quand nous nous retrouvons, l'impossibilité de célébrer des mariages réellement œcuméniques, le discours toujours moralisateur, là où l'Évangile annonce un accueil inconditionnel de chacun. Et ce qui est vrai pour le christianisme est vrai partout où les hommes ont pour tâche d'inventer demain ensemble. Nos sociétés ont dû se réformer sans cesse. Et ce qui nous paraît évident dans notre génération ne l'était absolument pas dans la précédente. Par exemple, je pense à des faits de société et des mentalités qui ont beaucoup changé. La vision de ce qu'est un viol, par exemple, et l'évolution entre le rôle de la femme autrefois vue comme tentatrice vers la reconnaissance de son statut de victime, qu'on aurait maintenant du mal à contester. Ou encore la prise en compte de la douleur chez les tout-petits, dont on imaginait jadis la sensibilité à la douleur moindre que celle d'un adulte. Ou encore la possibilité de dénoncer les incestes et de les punir. Tout cela était extrêmement difficile à envisager pour ceux qui venaient avant nous. Et aujourd'hui, sans doute nos enfants doivent se dire « mais il est impossible qu'il en ait été autrement ». Pour que ces évolutions puissent avoir lieu, il a fallu que les mentalités changent pour être capable d'avoir de nouveaux regards sur la réalité et de mettre en place de nouvelles façons d'agir, de légiférer ou de soigner. une autre façon de voir l'humanité, une autre façon de voir la société. Et il a fallu que des gens changent le système, changent la façon de penser et annoncent ce changement sans crainte. Des outres neuves pour un vin nouveau. Voilà ce que nous propose l'Évangile. Le contraire du fondamentalisme. Notre monde change, comme celui de Jésus avait changé par rapport à celui de Jean. Il n'était plus temps pour Jésus de jeûner, mais le temps était venu de dîner avec les collecteurs des taxes et les pêcheurs. Parce que son évangile à lui, la bonne nouvelle qui le faisait vivre, c'était celui d'un royaume qui existerait là où l'amour de Dieu était annoncé et reçu, sans condition, sans rapport à la généalogie, sans idée qu'il fallait à tout prix être bon de père en fils. Les besoins de nos contemporains ont aussi changé et changeront sans cesse. Le mode de vie, la conception du temps, du travail, de la vie amoureuse, de la parentalité. Tout évolue sans cesse et ouvre des voies encore inexplorées. Certains s'en lamentent, au nom de la bonne morale peut-être. D'autres s'en effraient, au nom de la préservation de la société. Mais la réalité est là, et elle n'est pas plus ou moins intéressante que ne l'était la réalité des époques passées. C'est dans cette réalité que s'invente notre annonce de l'Évangile, toujours comme une bonne nouvelle, mais pour un monde qui n'est jamais le même. Il nous faut donc faire des efforts sans cesse de relecture, d'adaptation, de critique de nos propres pratiques, pour sans cesse nous réformer. La tentation serait de faire du même et d'entrer dans une imitation de Jésus-Christ, comme si l'on pouvait être des hommes et des femmes de son époque à lui. Mais tout individu doit s'approprier l'éternité du salut dans son existence. Il ne s'agit donc pas d'imiter le Christ, mais de devenir christique, ni plus ni moins. Devenir christique, dans ce monde, c'est-à-dire d'agir selon notre propre compréhension de l'Évangile, dans nos codes contemporains, et ainsi d'ajouter notre propre page d'Évangile au grand livre de l'histoire du salut, en n'ayant jamais peur d'utiliser des outres neuves. Amen. Je vous invite à chanter ensemble le cantique 214 dans les louanges et prières, les strophes 1 et 2. Et nous nous levons. Peut-être qu'un jour dans ce cantique nous lirons et que ta grâce maternelle, plutôt que ta grâce paternelle, peut-être que ce sera une évolution de nos églises. Voilà, je laisse la parole pour les annonces maintenant.
Bonjour à tous, au nom du Conseil presbytéral. Faut que tout change pour que rien ne change. Je crois que ça a donné beaucoup de sens. Et ça a fait beaucoup de bien aux conseillers, au nom du conseil presbytéral, ça fait du bien d'entendre ça. Normalement, ça fait plusieurs fois que nous sommes reconfinés le jour du week-end de l'entraide. Donc le week-end de l'entraide est dimanche prochain. J'espère que nous ne serons pas reconfinés dimanche prochain. En attendant, nous sommes à votre écoute. Souvenez-vous du père Guggenheim la semaine dernière. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous pour nous renouveler, pour nous ressourcer nos pasteurs. Donc dites-nous ce dont vous avez envie en ce moment, ce dont vous avez besoin. Il ne faut pas hésiter. Nos pasteurs, il faut innover. Beaucoup d'entre vous sont sur Doctolib toute la journée pour essayer de trouver un vaccin. Nous allons essayer d'inventer le Pastolib.
Voilà. Contactez, nous allons déposer la marque.
Voilà. Contactez nos pasteurs, ne restez pas seuls, demandez un rendez-vous, demandez un entretien, ne soyez pas timides. Du mardi au dimanche inclus, elles sont avec vous. Le lundi, nous essayons de les ressourcer ou de les faire se ressourcer en famille et s'occuper aussi de leurs proches. Prenez rendez-vous, vraiment. Elles le feront, elles en ont même besoin.
Ah mais toutes seules, on ne peut pas faire notre ministère, n'est-ce pas,
voilà.
Agnès, hein ? C'est impossible.
Elles en ont besoin, donc voilà. Le reste du temps, donnez-nous vos idées. Nous sommes vraiment en train de réfléchir à plein de choses pour essayer de rester en contact avec vous. Également, aujourd'hui, parce que les sauterelles et le miel est un temps passé, nous avons des gâteaux à la sortie. Et nous avons aussi la relève qui est là, parce que le monde change. Donc vous êtes en uniforme et en même temps, vous n'avez rien à voir avec celle qui était avant vous. Voilà, donc j'ai vu passer un poire chocolat apporté par des grands-parents. Dites-nous ce que vous nous offrez à la sortie et pourquoi.
Donc on offre des quiches et des gâteaux à vendre pour ma part, c'est pour réparer ma tente. Et sinon, c'est pour acheter des
choses qui nous manquent. Et voilà.
voilà.
Alors, pas de morceaux de tissu neuf sur la vieille tente, sinon ça tire.
Une tente neuve. Merci à vous. Dernier jour du mois de janvier, 31 janvier, au nom du Conseil presbytéral, vraiment à tous une bonne année 2021. Et puis, soyons solidaires et fraternels. Merci.
Voilà, je voudrais saluer mes catéchumènes de Boulogne qui sont ce matin, quelques-unes qui sont là ce matin, avec aussi des catéchètes qui ont accompagné ces enfants avec moi quand j'étais en poste à Boulogne. Et je voudrais les saluer particulièrement parce que ça fait toujours plaisir de revoir les enfants qui grandissent et qu'on a accompagnés un temps. Merci d'être là. Je vous invite maintenant à ce temps de collecte qui va nous amener à montrer notre générosité pour ce projet à renouveler sans cesse dans nos églises. Je vous invite à nous rassembler dans la prière. Seigneur, nous te prions pour nos églises, pour toutes nos institutions humaines, pour les modèles que nous avons dans nos têtes. Apprends-nous à regarder plus loin que nous-mêmes. Et aide-nous à nous réformer sans cesse avec toi. Donne-nous d'accepter le changement comme un signe de vie, sans regret, sans amertume, mais en imaginant demain avec espérance et générosité. Seigneur, nous te remettons tous les enfants que nous formons dans nos églises, tous ceux à qui nous pensons apporter l'Évangile et qui eux-mêmes nous apportent l'Évangile. Tous ceux avec qui nous écrivons notre Évangile. Permets que nous soyons toujours fidèles et que nous écoutions sans cesse ta parole, sans croire que nous détenons la vérité seule. Nous te remettons les familles touchées par le deuil. Et ce matin particulièrement, nous te remettons celles et ceux qui pleurent Marie-Paul Delvedove et Fabrice Bouillou. Et pour eux, ce matin, nous prions avec le psalmiste. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient du Seigneur. Il fait le ciel et la terre. Il ne te laissera pas vaciller sur tes jambes. Celui qui te garde ne sommeille pas. Non, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. C'est le Seigneur qui te garde. Le Seigneur est ton ombre à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera lorsque tu sortiras et lorsque tu rentreras, dès maintenant et pour toujours. Et ensemble, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus a apprise à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, amis, vous qui êtes venus ici ce matin le temps d'une halte, pendant l'heure que nous avons passée ensemble, le monde dehors a déjà changé. Il nous faut inventer demain ensemble. Il nous faut vivre aujourd'hui avec l'Évangile pour convertir nos cœurs. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur de toute grâce vous bénit et vous garde.